profiter, Monsieur l'Abbé Bouvet, que nous remercions d'être venu de Paris, exprès, donner cette conférence. Monsieur l'Abbé Bouvet est directeur de l'école Saint-Bernard, du collège, depuis 8 ans, et puis en plus, en raison de ses fonctions sacerdotales, il a eu l'occasion de faire, depuis le début, dans le notre sacerdoce, que ce soit du travail auprès des jeunes, des enfants et des plus grands, depuis donc, une vingtaine d'années. Monsieur l'abbé s'est particulièrement intéressé à cette question de l'enseignement, bien sûr en raison de sa charge, et puis je crois aussi, en vu les circonstances et le milieu, il a eu pas mal d'occasions, je dirais, de sortir de son école pour voir ce qui se fait autour, pour comparer, pour même utiliser ce qui est utilisable, et puis aussi pour constater ce qui est parfois et souvent déplorable. Alors je laisse la parole à monsieur l'abbé.
Bien chers amis, c'est une joie pour moi de venir parler parmi vous. Je suis déjà venu plusieurs fois dans ce prieuré. Je remercie beaucoup Monsieur l'abbé Lorbert de son invitation, que j'ai été obligé de décaler pour un petit problème médical. Vous m'excuserez d'avoir une voix un peu voilée. Ce n'est ni le fait que j'attrape trop violemment mes élèves, ni le fait que j'ai chanté à tue-tête dans notre dernier pèlerinage Chartres-Montmartre. J'ai subi une petite intervention des cordes vocales, et il se peut que certains d'entre vous qui aient le mal correspondant, qui correspond à avoir de mal entendre du côté des oreilles, entre nous, le message passe difficilement. J'ai encore une voix un peu voilée. Je vous en demande pardon, mais je pense que tout rentrera dans l'ordre peu à peu et que le message pourra passer quand même. Il est vrai, comme vous le disiez, Monsieur l'abbé Lorbert, que mon itinéraire m'a permis de connaître énormément ce qui se passe dans l'enseignement français fondamentalement, un petit peu à l'extérieur, ayant été dans des pratiquement prieurs de la vallée de la Seine pendant 13 ans, donc ayant des enfants dont la scolarité s'étendait sur 60 km de ville, ce qui m'a permis d'avoir un échantillonnage de ce qui se passait sur des quantités et des quantités d'écoles, me trouvant maintenant dans l'enseignement, parlant assez souvent à la radio parisienne appelée Radio Courtoisie, ce qui me permet d'avoir un courrier et des contacts fort passionnants et qui viennent prouver ce que j'affirme. Bien sûr, je m'excuse par avance de la peut-être d'une certaine inadaptation de mes exemples qui seront issus de l'enseignement français que nécessairement je connais parfaitement, mais qui pourtant n'est pas du tout distinct de la réforme. Vous savez qu'on a parlé chez vous d'un enseignement rénové, d'un enseignement qui avait été transformé vers les années 80. Alors que pendant des siècles, on n'avait rien rénové du tout, parce que les additions se faisaient de la même façon, les soustractions aussi, les cours de français, la littérature, le latin, les langues, se faisaient toujours de la même façon. Or, même chez vous, en Belgique, on a rénové l'enseignement tout à coup, suivant par là des instructions mondiales qui viennent de l'OCDE, qui viennent de l'UNESCO, qui sont issues, il faut le reconnaître, surtout des rêves français, parce que les Français ont, parmi leurs qualités et leurs défauts, c'est une chose commune, d'être des doctrinaires, d'avoir parfois des idées loufoques, comme la Révolution française, et d'avoir cette caractéristique de savoir communiquer leur enthousiasme, pour le bien comme pour le mal, à l'extérieur de leurs frontières. Et il est vrai qu'il s'agit d'une entreprise maçonnique pour l'enseignement, et que cette entreprise maçonnique bat son plein en France et déborde largement nos frontières. Je vais vous en expliquer les principes avec beaucoup d'exemples français que vous aurez forcément l'intelligence de transplanter, de transformer à travers les ouvrages qui sont les ouvrages que vous voyez dans les mains de vos enfants, dont vous aurez vous-même la comparaison sans aucune difficulté. Parce que j'ai quand même pris la peine de me renseigner, les ouvrages qui sont dans les mains de vos enfants sont de la même famille que ceux que nous avons dans notre pays de France. si l'on parle un peu partout d'une faillite de l'enseignement, cette faillite n'est pas accidentelle. Bien sûr, j'aurais pu aujourd'hui vous parler d'un thème facile et qui, je dirais, aurait fait jaillir immédiatement des foules de questions ou au moins d'exemples. Comme je vous parlais tout à l'heure de mes quelques expériences à la radio, il suffit qu'on parle de ces éléments-là, on a plusieurs dizaines de coups de téléphone à la minute. Chacun a son expérience à raconter. Si j'avais à vous parler de l'immoralité, de la drogue, du racket, de l'insécurité, de la perte du sens de l'autorité, là, les exemples pullulent. S'il est vrai que votre pays est très légèrement préservé, je ne dis pas préservé, ça n'est pas vrai du tout, est très légèrement préservé par rapport au nôtre, la situation s'accélère et finira par frôler le drame. Vous, devant moi, qui êtes de ma génération, nous n'arrivons pas à y croire, parce que nous n'arrivons pas à comprendre comment ce qu'avait annoncé le curé d'Ars, laisser 20 ans une paroisse sans prêtre et ils adoreront les bêtes, nous n'arrivons pas à croire que c'est vrai. Nous avons plus de 20 ans sans prêtre, nous en avons 30 ou 40. Donc nous avons autour de nous, excusez-moi, nous avons des bêtes. Je crois n'avoir pas connu, j'avais plus de 500 enfants qui gravitaient autour de mon prieuré pendant 13 ans. Je n'ai pas connu un cas, je ne dis pas un, d'enfant qui ne se soit pas fait racketter sur une trentaine ou une quarantaine d'écoles. Pas un seul cas. Actuellement, je continue à confesser par mons et par vos auprès des occasions qui me sont données. La drogue, que vous croyez, vous, être un problème que l'on traite de façon tout à fait abstraite, a pénétré dans les milieux traditionnels. Et il est devenu fréquent d'entendre une accusation de personne qui a essayé la drogue, j'ai failli dire parmi vos enfants. Vous n'y croyez pas, je peux vous dire que c'est vrai. C'est inimaginable de penser que le milieu catholique, pratiquant, dans lequel il y a une éducation pour empêcher ce risque, on a quand même des enfants qui veulent voir, tellement la pression extérieure est forte, on a des enfants catholiques traditionnels qui veulent voir ce que ça fait. Je ne dirais pas jusqu'à vous parler de l'éducation sexuelle, qui même en Belgique a lieu dans le primaire, en France aussi, qui est réitérée, l'éducation à la contraception, qui est absolument faite partout, l'éducation à l'immoralité, au vol, à la tricherie, la perte d'autorité. Tous ces éléments-là, je pourrais vous parler des heures dessus. Vous seriez tous en train de me dire que vous avez des exemples présents à l'esprit. Et croyez-moi, nous sommes en train de fabriquer, rien que sur ce plan moral, une génération de petits sauvages, et ces petits sauvages, nous pleurons de les avoir engendrés. Nous pleurons d'avoir été des mauvais lutteurs dans notre société. Parce que la lutte est une lutte de civilisation, c'est une lutte profonde. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de christianiser, pour éviter d'avoir des sauvages. Reprenez les paroles du curé d'Ars. Mais aujourd'hui, je voudrais aller encore plus loin, aller plus haut. Je voudrais vous montrer que l'école a changé de but en raison même des directives de l'éducation nationale française, des directives de l'UNESCO, des directives de l'OCDE, de directives mondiales issues des loges maçonniques. En fait, il faut bien comprendre que l'on n'envoie plus un enfant à l'école pour lui apprendre. On l'envoie à l'école pour lui gérer des comportements. Et c'est ça que nous allons analyser d'un peu près. Il s'agit, l'école n'est plus une demeure. Nous sommes vieux jeux, nous sommes, excusez-moi le terme, rétro. Pour nous, il nous paraît évident qu'on envoie un enfant à l'école pour qu'à la fin, il sache lire, écrire, compter et qu'il connaisse un métier. Lisez toutes les circulaires de l'éducation nationale française et toutes les circulaires de l'UNESCO. Je ne connais pas les circulaires belges. Plus personne ne parle d'apprendre à enseigner, à lire, à écrire, à compter, à personne. Ça n'intéresse personne. En France, on a même un mot magique que vous avez peut-être vu débarquer chez vous. On parle maintenant d'éducation à la citoyenneté. Il faut que tout soit citoyen, même le sport. On a des circulaires pour les professeurs de sport expliquant que le sport est une manière d'éduquer à la citoyenneté. Ce qui est important, c'est que le sport qui est choisi et la manière dont on l'enseigne permettent de rappeler les droits de l'homme, permettent de rappeler l'égalité entre tous les hommes, permettent de rappeler toutes ces lubies. Mais on n'a plus l'idée, par exemple, de faire du sport pour simplement permettre un épanouissement de la santé. Pas du tout. Il faut que tout soit une éducation à la citoyenneté. Voilà le nouveau mot magique de l'éducation nationale chez nous. On sort complètement de l'instruction. L'instruction n'est plus dans les esprits. Alors, quand on vous annonce qu'à la fin, là en France, nous arrivons à des records. Notre ancien ministre de l'Éducation nationale nous annonçait qu'en troisième, nous avions un cinquième de véritables illettrés, c'est-à-dire qui ne sait pas du tout déchiffrer, et un tiers de ce qu'il appelait d'illettrés. Fin de troisième, ça fait des enfants de 14-15 ans. Un tiers d'illettrés, c'est-à-dire quelqu'un, si vous lui donnez une feuille photocopiée, tapée à la machine, un petit peu comme celle-là, vous voyez, il va la prendre. Ça va exiger de sa tête un tel effort qu'il va la reposer sans l'avoir lu. En fait, la seule chose qu'il est capable de lire, ce sont d'énormes publicités, ce sont des spots télévisés, mais pas une feuille, c'est trop compliqué. Parce que ça exige un effort. Bien sûr qu'il en serait capable. Enfin, on peut appeler ça un illettré, c'est-à-dire quelqu'un qui ne manie pas l'usage des lettres. Parce que c'est un trop gros effort. Eh bien, en France, du dire même du ministre, à 15 ans, on a un tiers de la population qui est comme ça. En étant tous passés à l'école. Et même si la Belgique a un peu de retard, les principes qui la gèrent sont les mêmes et les fruits seront les mêmes. Pourquoi ? Alors là, permettez-moi de vous prendre pour des gens très sérieux et de vous entraîner sur les pistes de la philosophie. Quel grand mot ! Si vous avez des lettres, vous avez peut-être lu Molière et vous savez que même Monsieur Jourdain, qui ne savait rien, on lui faisait faire de la philosophie sans qu'il s'en rende compte. Et croyez-moi, j'enseigne un peu de philosophie, je la fais comprendre à des caboches qui sont très hermétiques, et ils en comprennent quelques petits détails. Alors comme je pense que vous n'êtes pas hermétique du tout, vous allez fort bien comprendre ce que je vais vous expliquer. Nous allons partir d'une chose curieuse que nous avons tous à l'intérieur de notre crâne, et dont vous êtes en train de vous servir, avec énormément de fumée qui s'en dégage, il s'agit de l'intelligence. Nous avons tous une intelligence, c'est notre caractéristique d'homme. Qu'est-ce que l'intelligence ? J'ai failli dire une terre vierge. Il n'y a rien dedans, au départ, mais c'est une terre qui est capable d'absorber beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle est capable d'absorber ? Pourquoi est-elle faite ? Elle est faite pour absorber ce que les philosophes appellent l'être. L'être, c'est très vague et c'est tout. Vous connaissez une porte, c'est de l'être. Vous rencontrez un animal, c'est de l'être. Vous rencontrez un homme, c'est de l'être. Vous parlez de quelque chose, c'est de l'être. C'est une notion très large, très riche, qui est en tout. Et quelle est l'éponge pour recevoir l'être ? C'est l'intelligence. Nous sommes faits pour l'être. Et nous sommes faits pour connaître ce qui est. Et tant qu'on, quand on connaît ce qui est, tel que c'est, on dit que nous sommes dans le vrai, que nous sommes dans la certitude. Et quand vous connaissez normalement, depuis que vous êtes enfant, vous avez appris à connaître des choses que vous ne connaissiez pas. Au bout d'un moment, vous avez dit, elles sont comme ça. J'ai rencontré n'importe quoi, vous dites, tiens, j'ai découvert une plante, un coquelicot. Il est comme ça, il est rouge, c'est un coquelicot. C'est vrai, c'est un vrai coquelicot, et il est. Et votre intelligence a découvert un être. C'est pour ça qu'est fait l'intelligence. Et donc, c'est grâce à l'intelligence qu'on connaît les êtres et qu'on progresse d'ailleurs dans la connaissance. Parce que, après avoir vu plusieurs, par exemple un coquelicot, un pissenlit, une marguerite, une tulipe, vous arriverez à connaître ce qu'est une fleur. Vous arriverez même à parler de choses encore plus abstraites. On va utiliser par exemple ce mot bizarre, la botanique. Est-ce que vous l'avez vu quelque part, la botanique ? Jamais nulle part. Or, vous savez ce que c'est. Vous arrivez à des notions très fortes grâce à l'être. Alors notre intelligence progresse dans la connaissance. Comment ? Par trois axes. Le premier, qui s'appelle abstraire. Abstraire, c'est-à-dire former des idées. Je viens de vous parler tout à l'heure du coquelicot. Vous vous êtes fait l'idée d'un coquelicot. Je vous ai parlé d'une tête d'une porte. Vous vous êtes fait une idée de porte. Ça s'appelle former un concept. Ça s'appelle abstraire. Et on exprime ces choses par des mots. Là, pour l'instant, vous voyez que la philosophie va vous paraître un petit peu bébête, ce sont des choses toutes simples. Et vous allez voir qu'elles sont tellement simples que c'est sur ces points-là qu'on s'attaque actuellement dans l'enseignement. La deuxième chose, le deuxième acte de notre intelligence, c'est de juger. C'est-à-dire, on va dire, le mur est vert. Vous savez ce que c'est qu'un mur, vous savez ce que c'est que du vert, vous avez mis une égalité entre les deux, le mur est vert. Et à partir de là, vous avez fait un jugement. C'est aussi votre intelligence, c'est une des fonctions de l'intelligence. Puis ensuite, vous allez faire une troisième action dans l'intelligence, c'est ce que l'on appelle le raisonnement. Et le raisonnement, c'est de mettre des jugements les uns à côté des autres pour arriver à une conclusion. Je vous prends un exemple tout simple, je viens de vous dire le mur est vert. Imaginez qu'on vous ait dit « Tous les murs de cette maison sont verts. » Donc, votre chambre qui a des murs, a des murs verts. Votre chambre est verte. C'est un raisonnement. Vous avez associé des idées et vous êtes sûr qu'en entrant dans cette chambre que vous ne connaissiez pas, elle sera verte parce que vous avez dit que tous les murs sont verts. Donc ça, ce sont des choses simples. Et en réalité, quand on éduque un enfant dans une école, que fait-on ? On utilise ces choses toutes simples pour l'obliger petit à petit à utiliser ces mécanismes de façon plus compliquée. Parce qu'en fin de compte, si les seuls raisonnements que vous aviez à faire dans votre vie, c'est de vous dire qu'une soupe est chaude ou qu'un mur est vert, c'est pas difficile. Mais quand un peu plus tard on vous dit « l'âme est immortelle » ou « Dieu est un esprit pur », c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, si vous voulez faire des progrès de connaissances, ou même si pour vous dire que l'eau est formée d'hydrogène et d'oxygène, c'est un peu plus compliqué. Et si on veut qu'un enfant devienne un adulte et soit capable de faire ses raisonnements plus compliqués, il faut au départ lui apprendre à bien se servir de son intelligence. Alors au départ, qu'est-ce qui va se passer chez un petit enfant ? Un petit enfant va commencer par connaître avec ses sens. C'est le premier moyen de connaître pour un enfant. Vous avez un petit enfant et vous allez le mettre devant la table de la salle à manger. Elle est énorme, massive, en bois, brune. Il voit la table. « Maman, qu'est-ce que c'est ?»« C'est une table. » Tu répètes derrière moi « table ». L'enfant a formé l'idée de table. Il y a mis un mot avec qui s'appelle le mot « table ». Et c'est définitif. Il a fait ce qu'on appelle l'abstraire. Le lendemain, vous vous promenez dans le jardin. Et vous voyez un tout petit guéridon en plastique, un unique pied, trois petits pieds qui s'en dégagent, c'est gros comme ça, c'est blanc, c'est en plastique. Et l'enfant dit « Maman, regarde une table !» C'est quand même bizarre. C'est pas la même matière, c'est pas la même couleur, c'est pas la même forme, c'est pas le même volume, et ça sert presque pratiquement pas la même chose. Et l'enfant vous a dit « C'est une table !» Et oui, c'est que l'enfant a une intelligence. C'est pas un animal. Et donc, il a réussi à faire ce qu'on appelle l'abstraction. Il a formé dans sa tête ce qu'on appelle un concept de table. Et c'est définitif, c'est un concept. Il s'est trouvé dès le Moyen-Âge des gens qu'on appelait des nominalistes, c'est Guillaume d'Ockham, le premier nominaliste, qui prétendaient déjà que l'enfant n'était presque qu'un, que l'homme n'était qu'un genre de, disons, de connexion matérielle, et qu'en fait on ne faisait pas un concept de table, mais qu'on faisait une image moyenne de table. C'est-à-dire que vous faites à l'intérieur de votre tête un genre de bouillie dans lequel vous avez une image moyenne entre la table en bois brun que vous avez vue et le petit guéridon en plastique blanc que vous avez vu. Et ça serait ça votre pensée. Mais en réalité, on s'aperçoit que ça n'est pas très cohérent. Cependant, sachez que tous nos modernes pédagogues ne veulent pas admettre qu'il existe une essence des choses, un concept, et que notre intelligence est capable de le comprendre. Moyennant quoi, on finit par aller encore plus loin. Lorsque l'on fait raisonner un enfant, actuellement, on essaye par les exercices, surtout les exercices de grammaire, de faire séparer le mot de ce qu'il signifie. C'est-à-dire qu'on a utilisé ce que les techniciens disent, on a séparé, faites attention à deux mots, le signifiant du signifié. Et on va avoir dit, pour être sûr que l'enfant ne forme plus de concept, On va lui dire, mais mon pauvre enfant, tu utilises le mot table. Mais le mot table, tu peux l'utiliser pour une chaise. Et c'est vrai d'ailleurs. On aurait très bien pu décider que les chaises s'appellent table. Mais imaginez ce que vous faites à un enfant de 4 ans, de 5 ans, de 8 ans, si le lendemain vous décrétez que le mot table est arbitraire et que vous commencez à lui appeler toutes les chaises table. Au bout d'un moment, vous allez le mettre dans un vertige. Il va être dans un monde de fous. Et tout va être décloisonné. Alors si vous prenez un ouvrage de français, vous apercevrez qu'actuellement, il existe des petits jeux très amusants qui consistent à dire que les mots n'ont pas de signification et qu'on s'amuse avec les mots pour les mots. Il y en existe des exercices qui est devenu très très à la mode actuellement. On prend une fable de La Fontaine et on prend un dictionnaire et on remplace tous les mots de la fable de La Fontaine par le mot suivant dans le dictionnaire. Séparation du signifiant, du signifié. On leur apprend qu'en fin de compte, les mots sont un jeu, sont une onde sonore qui ne supporte aucun concept, qu'il n'y a pas de concept. Ce qui est important, c'est de s'amuser avec les mots. C'est important, c'est le volume sonore. On leur apprend, en fin de compte, que les mots sont des choses avec lesquelles on joue, qui n'ont pas d'importance. Ce n'est pas l'unique exercice, il en existe d'autres exercices de ce type-là, dans lesquels on essaye d'utiliser un mot en dehors de son sens. On essaye en réalité de se servir du mot comme n'étant plus le support d'un concept pour habituer l'enfant à ne plus avoir de concept certain. Comment vous voulez ? Je prends un exemple d'une des conséquences les plus graves. Si l'enfant vous dira très vite, mais de toute façon, vous appelez ça, vous appelez table chaise ou chaise table, ça pourrait être appelé autrement. Alors vous, pas habitué à ça, vous dites, ben oui, peut-être. Puis après ça, un peu plus tard, quand vous parlerez de Dieu, il vous dira, oui, mais Dieu, de toute façon, pour l'un, ça peut être ça, pour l'autre, ça peut être autre chose. Comment vous voulez que la notion de Dieu soit une notion objective, certaine et sûre? La notion de Dieu deviendra une notion subjective. Absolument ce que l'on veut, comme on veut. On y met derrière le contenu que l'on veut. Et c'est en réalité un des éléments déjà les plus graves, parce que c'est le premier acte de l'intelligence qui est attaqué. Et ça a été fait, vous remarquerez que ça a été fait très, très fortement, ça a même été fait dans les mathématiques. Il y a eu cette fameuse théorie des ensembles qui en France a sévi pendant pratiquement 25 ans, qui a fait des générations d'enfants qui ne connaissaient ni la géométrie ni l'algèbre, et qui consistait à ne plus voir ce qu'était une opération, par exemple, mais à lui donner un rôle relatif par rapport à d'autres opérations. Donc l'enfant était complètement perdu. À la fin, il ne savait pas faire une addition. On fait une petite chose que vous avez peut-être vue déjà dans certains de vos ouvrages scolaires, dans le primaire. On leur apprend, par exemple, à numérer autrement qu'en base 10. Nous, pour une raison qui est conventionnelle, et qui est liée d'ailleurs au génie d'un arabe, qui a inventé le chiffre zéro. Le chiffre zéro est une des inventions les plus extraordinaires des mathématiques, et les femmes qui tiennent le carnet de chèques de leur mari le savent très bien. Eh bien, le chiffre zéro est un chiffre merveilleux. Mais nous avons décidé, et c'est à partir de ce jour-là que les mathématiques ont pris leur essor, que nous mettions des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à partir de 9, on repart à zéro. Et on décale et on crée des dizaines. Les Romains n'avaient pas trouvé ça, c'est une invention arabe. C'est une invention absolument géniale, qui a permis tous les calculs et tout ce que l'on fait. Mais on aurait très bien pu mettre le zéro au bout de 7 chiffres, au bout de 8 chiffres, au bout de 12 chiffres. Et quand on arrive en première, dans les classes terminales, je ne sais pas quels sont les noms dans votre pays, quand on arrive dans les classes qui servent à terminer, ou dans le supérieur, on le fait. Mais c'est normal. On désarticule l'esprit, on essaye de faire travailler plus fort l'esprit. Mais un petit enfant, vous lui apprenez quelque chose qui doit être certain, objectif, construit, sûr. Un enfant, il a besoin d'avoir ses balises, de pouvoir être appuyé sur quelque chose de solide. Si vous lui apprenez à compter en base 10, et que le lendemain vous dites, mais tu peux compter en base 8 ou en base 12, au bout d'un moment, l'enfant il ne sait plus rien faire. Pour lui, le chiffre ne sert plus à rien, et le chiffre surtout ne supporte plus, n'est plus le support d'un concept. Il n'y a plus rien derrière le chiffre. Et l'enfant est dans le naufrage. Et il est dans le naufrage, j'ai fait dire, c'est plus grave que ça, c'est un naufrage de sa personnalité. Non seulement on a brisé son intelligence, mais on a noyé sa personnalité. C'est un enfant qui n'est plus stable. Et on s'étonne d'avoir des enfants qui sont d'une certaine façon des schizophrènes, mais ils le sont. Ils le sont vraiment parce que ce sont des enfants dont on a fait perdre les repères. Il leur manque le béaba. C'est un enfant dont on les a privés de l'élémentaire nourriture de leur intelligence. Donc ils ont perdu tous les repères. Ils savent où ils sont. Ce sont déjà, d'une certaine façon, excusez-moi l'expression, des pré-fous. Ce sont des fous pratiquement en puissance. On a tout fait pour qu'ils perdent leurs repères. Et ça a été voulu, c'est exprès. D'autre part, que fait-on pour que l'enfant continue à relativiser le concept? Vous avez peut-être été étonné de voir que vos enfants, s'ils sont dans des écoles publiques, reviennent avec de plus en plus d'exposés à faire. Quand on ne leur demande même pas d'aller chercher sur Internet pour arriver à voir tous les documents qui sont nécessaires. Alors les enfants arrivent avec un fatras de petits documents. Alors ils doivent vous parler de n'importe quoi, d'une guerre, d'un pays, et alors ça sera une image de fleur, la photo d'un costume folklorique, une petite date, une image d'un parchemin, et l'enfant vous parlera de, je ne sais pas moi, de la création de l'Ukraine à partir de là. Bon. Vous imaginez qu'un enfant qui n'a que cette connaissance-là, c'est la connaissance d'une abeille qui butine sur plusieurs fleurs. C'est une connaissance qui n'en est pas une. En fait, c'est une série de flashs qui correspondent exactement à ce que l'on fait dans l'information. L'information actuellement, l'information télévisuelle étant les magazines et la télévision sont des modèles du genre. Ils ont pour rôle d'abêtir les populations. Parce que, en fait, ils font remplacer la réalité, là j'utilise les mots philosophiques exprès, la réalité essentielle, c'est-à-dire de l'essence des choses, par une foule de flashs accidentels. Tout ce qui tourne autour de la réalité, mais jamais la réalité. Qu'on vous parle de, je ne sais pas, actuellement dans les informations, par exemple, il y a tous les problèmes du Kosovo. Eh bien, au lieu de vous parler, le problème du Kosovo, c'est un problème, si on le traitait de façon essentielle, on vous ferait un cours d'histoire sur toute l'histoire de ces peuples des Balkans. On vous mettrait réellement dans ce cours d'histoire et n'essayerait de vous faire pénétrer dans la psychologie d'un peuple, la psychologie d'autres peuples, ce qu'ils ont vécu ces dernières années, la façon dont on a joué avec leur psychologie. On n'a jamais fait ça nulle part. On vous montre une femme qui pleure, un char qui tire, la déclaration d'un président. Voilà vos informations. Bien, excusez-moi de vous dire, mais quand vous avez regardé des informations comme ça, vous avez été à la merci de gens qui cherchent à vous abêtir. C'est-à-dire qu'ils ont joué sur votre sensibilité en détruisant l'usage de votre intelligence. Ce sont des gens pervers. Ils savent ce qu'ils font. Mais ils ont commencé ce travail-là. Ils l'ont commencé en classe. Vous ouvrez un ouvrage sur la guerre de 1914, un livre d'histoire. Alors vous êtes très étonné parce qu'en fait, vos enfants n'en connaissent pas la chronologie, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils savent à peine, même dans la guerre de 40, ils savent à peine que votre pays a été traversé par quelques armées. Ils ont vaguement entendu, parce qu'il y a des mythes à créer quand même, mais sur des personnages les plus odieux de l'histoire, mais à part ça, ils ne savent pas où sont passées les armées, ce qui s'est passé, ni rien du tout. Ils ne connaissent rien. En revanche, ils ont des réactions épidermiques. Alors il y a des gens pas beaux, il y a des gens très bien, il y a des systèmes horribles, il y a des systèmes très bien. Il y a beaucoup de morts et c'est très triste, c'est tout ce qu'ils savent. Pourquoi? Parce que si vous regardez ces ouvrages admirables, bourrés de photos, sur des papiers glacés qui exigent d'engloutir des fortunes, vous avez la photo d'un président, une déclaration des droits de l'homme, deux dates chronologiques, la photo d'un journal de droite, la harangue d'un homme de gauche. Et puis voilà, ils connaissent la guerre de 14, ils connaissent la guerre de 40. Voilà comment on leur demande de connaître la réalité. Quand on faisait de l'histoire chronologique, on formait leur tête à l'essence de la chose. Là, on joue sur leur épiderme, sur des flashs affectifs. Ça n'est plus de l'intelligence. Et vous remarquerez que tout ça, c'est conforme. On cherche à éviter que ce soit des esprits qui résonnent. C'est quelque chose d'excessivement grave. Je tiens cependant, je vous fais une toute petite digression, parce qu'elle est très importante sur le plan de la manière dont on sort de notre intelligence. Quelle est la différence entre votre fils, qui à 12 ans ne connaît de la guerre de 14 que les 5 photos qui sont dans son livre, et l'universitaire? Parce que l'universitaire aussi, Il part à zéro, il rentre dans une bibliothèque, il se retrousse les manches, et pendant des mois, il va regarder des photos, lire des ouvrages, consulter des journaux, interroger des personnes, et ainsi de suite. La différence, elle est fondamentale. C'est que l'universitaire, il fait l'œuvre que fait l'enfant quand vous lui avez montré la table. Il fait un travail d'abstraction. L'universitaire, il va lire un ouvrage où il va lire 40 pages écrites dans une encyclopédie. Qu'est-ce qu'il va tirer de ces 40 pages ? Une idée essentielle. Il va après ça consulter tout un album de photos. Qu'est-ce qu'il va tirer de ces albums de photos ? Une idée essentielle. Et ainsi de suite. Et après ça, il va travailler sur cette matière et il va rédiger une thèse essentielle. Tandis que l'enfant, on s'est débrouillé que ça aille tellement vite qu'on est resté qu'au niveau sensuel, au niveau sensible, affectif, épidermique, et qu'il n'ait jamais eu de pensée. Il faut surtout l'empêcher de penser. Et on ne lui a jamais donné l'arsenal pour penser. Ce n'est pas du tout la même technique qui est utilisée dans les deux domaines. Donc la multitude des documents chez un universitaire n'est pas la même chose que la multitude des documents chez un enfant. D'abord parce que ce n'est pas le même âge mental, et ensuite parce que la somme de travail demandée et la capacité de faire ce travail n'est pas le même. Donc on a affaire à deux choses qui sont radicalement différentes. Ceci était un petit excursus pour vous expliquer ce qu'on appelle, chez l'universitaire, la méthode de connaissance que l'on appelle l'induction, c'est-à-dire partir de documents pour se former une pensée. Ça vous évitera de me poser la question tout à l'heure, parce qu'elle a peut-être effleuré vos pensées. Et donc, ce qui est important, alors, le degré d'après. Le degré d'après est encore plus grave. C'est qu'en réalité, ce qui finit par être recherché, c'est la fonction que remplissent les choses que l'on connaît. Je m'explique. Je suis obligé de vous expliquer ce qu'on appelle en philosophie le structuralisme. Normalement, dans un être... Alors là, on va faire encore un petit peu de philosophie, mais on reste toujours sur les mêmes bases qui sont assez simples. Je vous ai pris l'exemple d'une table. Cette table-ci, sa fonction, son essence, c'est d'être une table. Cette essence comporte un certain nombre d'accidents. Elle a tel poids, ça s'appelle la quantité. Elle a telle qualité, elle est solide. Elle a telle couleur. Elle existe en 1999, elle est dans le temps. Elle est à telle distance de moi, elle est dans le lieu. Tout ça, ça s'appelle des accidents. Et le dernier, le tout dernier des accidents, celui qui est le plus lointain, c'est celui qu'on appelle la relation. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'elle est par rapport à moi ? Elle est, pour l'instant, le support, l'aide de ma conférence ou de mes papiers. Ce qu'elle est pour moi, moi personnellement, sur le plan subjectif, c'est la dernière des choses. Auparavant, il faut qu'elle soit une table, il faut qu'elle ait un poids, il faut qu'elle ait un lieu, il faut qu'elle ait une fonction. Et après, en dernier lieu, pour moi, par rapport à moi, elle a un but qui est actuellement d'être la table dont je me sers, que je trouve très commode, à la taille qu'il faut. Et ça, ça vient à la fin. Donc sa fonction, c'est le dernier des accidents, c'est le plus minuscule. Or, dans l'enseignement actuel, c'est devenu la seule chose que l'on regarde, la chose essentielle que l'on regarde. Je vais peut-être commencer par un exemple qui va vous paraître très clair. Il y a eu, depuis 30 ans, dans l'Église catholique, des nouveaux catéchismes. Quand vous avez fait le catéchisme, on vous posait cette question : qui est Jésus-Christ ? Et vous répondiez : Jésus-Christ est le Fils de Dieu fait homme. Bon, qui est Jésus-Christ ? Qu'est-ce qu'il est ? Quelle est son essence ? Qu'est-ce qu'il est ? Ce qui est important, c'est ce qu'il est objectivement. Or, les nouveaux catéchismes, à partir des années 65 à peu près, posaient la question : qui est Jésus-Christ pour vous ? Le pour vous, c'est l'argument qui tue. C'est comme si on demande non pas quel est cet objet que j'ai devant moi, mais qu'est-ce qu'elle est pour moi. C'est comme si au lieu de vous dire c'est une table, je vous dis elle est commode. Et ce qui ferait sa définition, c'est qu'elle est très commode, qu'elle est à la taille qu'il faut, qu'elle est là le jour où j'en ai besoin. Mais ce n'est pas sa définition. C'est un tout petit aspect de la table. Quand on vous demande qui est Jésus-Christ pour vous, vous dites, ah pour moi c'est celui, ça me fait plaisir de le prier, pour moi c'est, il m'interpelle, pour moi, ça n'a aucune importance, on s'en fiche. Or, c'est devenu la nature même du catéchisme. C'est qui est Jésus-Christ pour vous. Même plus grave que ça, on se met à expliquer qu'est-ce qu'il est même pour un groupe d'hommes. J'ai lu dans une revue il y a 4 ans, je crois, qui passe pourtant pour traditionnelle, qui s'appelle Famille Chrétienne. Peut-être d'entre vous, certains d'entre vous connaissez, peut-être y êtes-vous-même abonné. Un éditorial, le jour de Noël, qui avait été fait par un évêque très malin, très intelligent, et qui passe certains jours pour traditionnel, qui est Mgr Thomas, l'évêque de Versailles. Je vous donnerai cet article à lire sur Noël. Vous me diriez, il est extraordinaire. Enfin, un évêque qui parle de Noël comme il faut. Tout y est. Le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, l'incarnation, la virginité de Marie, les anges qui chantent, les bergers qui adorent, tout y est. Et moi, je vous dis, en tant que professionnel, c'est un monument de modernisme. Un monument. Parce que c'était exprimé de cette façon-là. Les anges ont adoré notre Seigneur. Les bergers étaient contents d'adorer le Sauveur. La Vierge Marie avait consacré sa virginité. Tout était personnalisé. Tout était subjectif. Ce qu'avait fait la Vierge Marie, ce qu'ont fait les anges, ce qu'ont fait les bergers, tout était subjectif. Ce qu'ont cru les gens de l'époque, on vous dira, tous les gens de l'époque ont cru que. Tout était subjectif. Tout était raconté. Pour une âme traditionnelle et catholique, il n'y avait que de la fumée. On croyait que tout était parfait. En fait, tout était subjectif, tout était structuraliste. Et par conséquent, on peut arriver derrière en disant « Oui, mais pour eux, c'était comme ça, mais pour d'autres, c'est pas comme ça. » Si on vous dit « Oui, la Vierge avait jugé bon de se consacrer à Dieu », très bien, tant mieux pour elle. Mais on n'a pas de preuve qu'elle était vraiment consacrée à Dieu ou qu'elle était véritablement vierge. On nous raconte qu'elle, elle avait cru ça, c'était très bien, elle nous l'a dit. Très bien, on est content. Ça ne donne rien sur l'objectivité de la réalité. Ce sont des choses qui sont éminemment perverses. Eh bien, vous voyez, ce sont des réalités qui se produisent même dans tous les cours, dans le cours de français. Dans le cours de français, c'est la fonction maintenant qui importe dans un mot. C'est la fonction qui crée la valeur du mot. Ce qui est très important, c'est que ça ne véhicule plus de pensée. La fonction, la place du mot suffit à créer la pensée. Donc, on fait actuellement ça s'introduit dans votre pays, et c'est obligatoire dans notre pays, pour le baccalauréat. On passe à l'examen de français un texte en analyse linéaire. Qu'est-ce que l'analyse linéaire ? L'analyse linéaire, ça consiste à prendre une phrase, à prendre des mots, et à voir quelle est la fonction du mot, et à partir de là, d'inventer tout. Je me suis fâché il y a 5-6 ans, j'ai toujours, pour une école, il est toujours important de la tenir à niveau, donc d'être sûr qu'elle entraîne les réussites aux examens, et qu'elle est à un niveau qui est équivalent d'écoles qui sont fortes. Et j'ai toujours fait faire des corrections à l'extérieur de mon école, par des professeurs d'autres écoles, des professeurs de très grand renom, ou de très haut diplôme. Pour être sûr qu'on se maintient au niveau, je le fais régulièrement. Je me suis fâché avec des gens qui le faisaient, parce qu'un jour, je leur avais donné à corriger une copie. Et c'était une copie sur un texte de Victor Hugo. Je ne ferai pas l'apologie de Victor Hugo, à titre personnel, j'ai horreur de Victor Hugo. Mais c'est subjectif, ce n'est pas objectif. Et il a le texte, je ne me souviens plus du texte, toujours est-il qu'il s'agissait d'une jeune fille qui se promenait sur une plage et qui était les pieds nus dans le sable. Rien de plus. Voilà que le correcteur a fait de l'analyse linéaire telle qu'on l'a fait dans tous les cours de français maintenant en France, telle qu'elle est obligatoire au bac. Il s'est arrêté sur le mot nu. Alors vous imaginez déjà tout ce qu'on peut faire. Il a tout de suite imaginé une figure de style, je ne sais plus laquelle, c'était une synecdoque, une image, une métonymie, ou je ne sais quoi. Donc il a imaginé que c'était une figure de style. À partir de là, il a créé tout un univers dans lequel il y a vu une symbolique érotique. Il n'y avait rien de ça dans ce texte. On était complètement en dehors du réalisme, de l'objectivité du texte. On était dans le fantasme le plus absolu. C'était un mot inventé sur une structure qui inventait une pensée. Donc on était complètement sorti du réel. Comment vous voulez qu'un enfant qui a été éduqué ainsi puisse un jour ou l'autre, ne serait-ce que lire un livre sérieux, lire un ouvrage sérieux, se renseigner sur son éducation chrétienne ou sur la religion ou sur la contre-révolution. Il y a une incapacité totale d'un enfant qui est formé ainsi. C'est excessivement grave. Alors ça se fait partout. C'est l'application pratique de ce structuralisme dont le grand chantre était Jean Piaget, qui était un philosophe de Genève, qui vit encore, me semble-t-il, mais dont, pour qui l'usage des mots est une pratique. C'est une pratique de la relation. Pour nous, c'est un jeu dans lequel on se met en relation par rapport à un texte, en relation par rapport à un monde. Ce qu'est le monde ne nous intéresse pas. C'est la relation que nous avons avec lui qui crée l'être, qui est Jésus-Christ pour vous. Ce qui crée Jésus-Christ, c'est la relation que vous avez avec lui. Ce n'est pas ce qu'il est. Ce qui est un orgueil fou. Parce qu'à la limite, j'ai failli dire, c'est faux d'une certaine façon. Mais Jésus-Christ, pour exister, n'a pas besoin de vous, il n'a rien à faire de vous. Il existe. Ce qu'il est pour vous ne change rien à ce qu'il est. Ce n'est pas vous qui allez le créer en disant, voilà ce qu'il est pour moi. Bien sûr que pour nous, oui, bien sûr que Jésus-Christ est quelque chose pour nous et que nous sommes quelque chose pour lui, puisqu'il nous a rachetés. Mais ça n'est pas notre impression psychologique qui crée l'importance de Jésus-Christ. Pas plus que c'est notre impression d'un texte français que nous lisons qui va en faire la vérité. On est dans un monde complètement fou. Mais c'est très ancien. Il y avait déjà une petite approche de ce texte. Je voudrais vous citer une phrase d'Alfred de Vigny, ça fait donc plus d'un siècle, hein, qui se plaignait du français qui monte de la grammaire à l'œuvre au lieu de descendre de l'intuition au style. Il se plaignait qu'on monte de la grammaire, c'est-à-dire de l'utilisation des mots, à l'œuvre, au lieu de descendre de l'intuition, c'est-à-dire de ce qui est dit dans le texte, et en voyant comment le style transporte très bien ce qui est dit dans le texte. C'était déjà une plainte d'Alfred de Vigny. Donc les choses sont parfois anciennes. Et c'est très grave. C'est la définition de tout le système sociopolitique dans lequel vous vivez. Parce qu'en réalité, le mot n'est plus utilisé pour ce qu'il est, mais pour être le véhicule d'une pensée que l'on vous force à avoir. Parce que il ne faut pas croire que les gens qui nous mènent ont l'intention de nous permettre d'avoir notre opinion. Le but, c'est de nous conduire à avoir leur opinion. Et là, vous le voyez très bien, si vous prenez des mots, je ne sais pas à quel degré ils sont à la mode chez vous, mais ils le sont énormément en France. Si vous prenez des mots comme citoyenneté, des mots comme racisme, des mots comme fascisme, des mots comme colonialisme, des mots qui sont des mots magiques, il n'y a pas une personne qui sait ce qu'elle veut dire. Vous ne rencontrez pas un seul journal dans un kiosque complet, et si vous pouvez prendre tous les journalistes qui ont utilisé les mots, il n'y en a pas un qui sait ce que c'est. Il n'y a pas une personne qui sait vous dire quelle est la doctrine du fascisme. Il n'y a pas une personne. Personne ne sait rien vous dire. Et pourtant, ils utilisent le mot à tour de bras. Personne ne sait ce que c'est. Je me souviens d'un jour, ça m'a fait éclater de rire, un de mes jeunes scouts qui était dans un lycée d'État. Et je ne sais pas à quel degré c'est en Belgique. En France, il y a une diabolisation de ce qui est de droite qui est purement arbitraire. Et tout ce qui est de gauche est forcément bien, tout ce qui est de droite est forcément mal, mais c'est un peu universel. Et alors, à cette époque-là, le professeur avait donc décrété qu'il ne restait plus qu'un seul péché mortel, c'était pas celui d'Adam et Ève, c'était Hitler. Et qu'en conséquence, c'était plus grave que l'avortement, plus grave que tout ce qui existe, ça c'était le péché mortel. Et tout à coup, mon élève, bon gros gaillard, bien gentil, qui en avait assez du cours, qui s'endormait, qui arrivait souvent en retard, mais enfin, bon, il venait de temps en temps à certains cours, se réveille en sursaut, lui dit, « Monsieur, vous êtes un... » Dans quel sens il a pris la chose ? Il lui a dit, « Monsieur, vous êtes un nazi. » Ah non, il avait fait l'apologie du communisme. Et il lui dit, « Monsieur, vous êtes un nazi. » Alors le professeur est devenu livide, en colère, une furie, il est sorti de la fumée par les oreilles, par les narines, par le dessus du cerveau. C'était effrayant qu'on ait osé le traiter de nazi. Mais il a dit, mais oui, monsieur, parce que vous venez de nous faire l'apologie du Parti communiste. Or, dans le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, pour prendre le pouvoir, il y a 10 mesures d'urgence. Lénine n'a réussi à en appliquer que 6. Hitler a réussi à en appliquer 8. Le type était tétanisé, la classe écroulée de rire. Et ça s'est terminé en queue de poisson. Donc, tous ces gens-là, ils utilisent des mots qui sont des mots qui n'ont plus de contenu. Il n'y a plus rien derrière ces mots. Parce que c'est le système sociopolitique. En effet, pour être abreuvé de mots qui servent à nous créer des réflexes, comme je vous le disais, vous avez des magazines télévisés, des magazines à lire. Il s'agit que vous réagissiez comme on vous le demande au moment où il le faut. que les mots ne supportent plus les concepts, mais qui supportent les concepts que vous êtes priés d'avoir, ceux qu'on veut mettre derrière. Alors, ça sert dans deux buts, pour bien voter et pour bien acheter. C'est tout. Voilà pourquoi vous intéressez les gens qui nous gouvernent. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Ce sont donc les deux domaines dans lesquels ils modifient l'usage de votre langue pour être sûr que vous votiez tous ensemble la même chose et que vous achetiez tous ensemble la même chose. Voilà le but que se fixent les gens qui nous dirigent. Mais c'est déjà un petit peu préparé dans l'enseignement. Et cette méthode est aussi devenue obligatoire dans les langues. Hein. L'enseignement des langues véhicule maintenant des thèmes. Vous ouvrez de plus en plus d'ouvrages, quelle que soit la langue qui est enseignée, et vous apercevez que c'est le véhicule de toutes les erreurs modernes. Alors ça va être un texte sur l'armement, un texte sur la drogue, un texte sur les boîtes de nuit, un texte sur le racisme, un texte... Tout ça pour véhiculer des mots conventionnels. Et alors, vous, parents, il y a des choses que vous ne soupçonnez pas, parce que d'abord, si vous êtes comme moi, quelquefois vous ne maîtrisez pas forcément extraordinairement les langues. Et puis si vous les maîtrisez le soir, quand vous rentrez de votre travail, vous avez autre chose à faire que de lire tous les ouvrages de langue de vos enfants. Mais vous pourrez découvrir que dans un ouvrage, par exemple, on traite des boîtes de nuit, et on voit un enfant qui injurie ses parents. C'est tout. Ça paraît normal parce que ses parents sont rétro, ils ne veulent pas le permettre de sortir en boîte de nuit. On va vous parler brusquement de la guerre. Mais là aussi, pas d'une façon essentielle, pas du problème de la guerre. Pas comme le disaient les Romains, si tu veux la paix, prépare la guerre. Non, la guerre, ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Une bombe sur le coin de la figure, ça fait mal. C'est très très désagréable. Donc c'est vrai que ça fait mal, on est tous d'accord. Si je vous demande qui est pour la guerre, mais vous allez me dire personne, moi non plus. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on raisonne. Bon. Mais par contre, vos enfants, eux, raisonnent comme ça. Parce que quand ils auront appris en étudiant l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'anglais, quand ils auront appris la guerre, on les aura fait raisonner comme ça. À la guerre, c'est horrible, il y a des gens qu'on tue. On est tous d'accord. Mais ce n'est pas du raisonnement. Donc, là aussi, le véhicule des concepts est évacué. Il n'y a plus de concepts. Ce qui est important, c'est l'épiderme, la réaction affective. Ce que on veut, la réaction qu'on veut que vous ayez tous en cadence et en même temps en parlant de la même chose. Voilà ce qu'est devenue cette méthode d'enseignement. Et pour être sûr que ça marche, on a même introduit des subtilités. Alors là, je connais mal votre système d'enseignement pour savoir si c'est arrivé à la perfection chez vous, mais en France, depuis 1965, c'est parfaitement en place. Il était certain de nos ministres de l'Éducation nationale, et déjà, je crois que c'est Jules Ferry, qui à la tribune de notre Assemblée nationale, donc il y a déjà un siècle, avait dit que l'inconvénient des lettres classiques, du latin, des lettres, des auteurs classiques, c'est qu'ils étaient le véhicule de la vraie pensée des nations, et que par conséquent, il privilégiait les classes, c'est-à-dire les parties de la société qui font la société, c'est-à-dire pas les classes bourgeoises, les classes qui finiront par diriger. Là, je ne vous fais pas de la lutte des classes. Il existe dans toute société des gens qui approfondissent moins les caractéristiques de la nation, qui connaissent mal leur patrimoine, qui rendent service, qui sont des travaux matériels dans la nation. Mais il existe toujours une classe de la société qui, elle, véhicule la pensée. Et qui véhicule la richesse de la nation, qui rappelle votre histoire, qui rappelle votre idéal, qui rappelle votre religion, qui rappelle votre littérature. Et ça, c'est une certaine catégorie de la société. Et il s'avère que c'est en général la catégorie de la société qui fait les études les plus supérieures. Et cette catégorie de la société était autrefois une catégorie qui réussissait grâce aux lettres. En France, il y a eu un tournant très important, fait volontairement en 1965, qui a modifié les sections par lesquelles on peut passer son baccalauréat, et qui a fait que pratiquement toutes les écoles intéressantes étaient fermées aux gens qui faisaient des lettres, et qu'elles ne restaient plus ouvertes qu'aux gens qui ne faisaient que des mathématiques. Donc si vous vouliez devenir ingénieur, si vous vouliez devenir médecin, si vous vouliez devenir voire même avocat, tout était possible aux gens qui faisaient des mathématiques. Et vous pouvez passer les plus grands diplômes. Quand vous avez un diplôme de lettres, vous faites ce que vous pouvez. Et la société française a été complètement restructurée sur ce schéma-là. Ce n'est pas du tout fait au hasard. Parce que l'enseignement des mathématiques tournant à 8 ou 9 heures par semaine quand on passe le baccalauréat, 17 ans, montant à près de 15 heures ou 18 heures par semaine quand on est dans le supérieur, et la philosophie étant réduite à 2 heures par semaine, vous comprenez bien, avec des coefficients pour passer des examens très faibles, vous comprenez bien qu'on ne prend pas tellement le temps de faire de la philosophie. Si en plus on a la malchance d'avoir un professeur complètement cinglé, avec des cheveux comme ça, des petites lunettes rondes, qui ne sait pas s'il est existentialiste et si son moi est véritablement en accord avec son introspection, bon, il est bien évident que si vous avez les examens de mathématiques à passer, la philosophie, c'est pour plus tard. Alors, au bout de 30 ans, eh bien, on a la caste dirigeante, d'une certaine façon, de la société, qui est complètement nullissime, qui est véritablement, on a affaire à des illettrés. Excusez-moi de dire, ils sont peut-être polytechniciens, mais ils sont des pauvres types. Ils ne peuvent plus réfléchir. Ils ne raisonnent qu'en maths, et ils sont incapables de conceptualiser une pensée. Et on leur demande de lire un ouvrage, d'en faire la synthèse, etc. Alors, il reste quelques cerveaux qui, par leur famille, qui, par leur travail personnel, par leur tournure d'esprit, s'en sortent. Mais disons que la grande majorité des élites ne transportent plus le patrimoine de la nation. Donc, ça a détruit la nation. Et ça en fait des gens, même ces élites, ont beau être des gens qui vous sortent des théories économiques très savantes, ils ne savent pas ce que c'est qu'une nation. Et vous savez, alors là, je connais mal vos ministres, je connais mal vos hommes politiques, mais les nôtres chez nous sont affligeants. Ils sont affligeants, et ce sont vraiment des illettrés. Ils sont capables de vous aligner des chiffres en quantité, d'ailleurs, ils les alignent toujours dans le bon sens, ça se termine toujours dans leur propre caisse et rarement dans celle des citoyens, mais en plus, ça, ils ne se trompent pas. Mais je peux vous garantir que pour ce qui est de la pensée, c'est un naufrage. Mais ça, on est au bout de 30 ans de ce genre de réforme, le règne des mathématiques. Alors, j'ai peur de vous atterrer, je viens de finir la première partie de ma conférence, le premier acte de l'intelligence. Rassurez-vous, j'irai beaucoup plus vite pour les deux autres, et je ne m'éterniserai pas, nous ne passerons pas la nuit ensemble. Mais vous comprenez qu'à partir de cela, le deuxième acte de l'intelligence qui consiste à juger, le jugement, le mur est vert, vous ai-je dit tout à l'heure, le jugement ne sera plus qu'une association de mots qui ne sont plus un effet de l'abstraction, un effet de l'intelligence, un effort de la construction. Et c'est pour cela qu'en réalité, on est tout à fait à l'aise dans des enseignements qui ne sont plus structurés. Pour modifier un petit peu, au lieu de vous prendre les exemples d'histoire, cette fois-ci, je vais vous prendre les exemples de géographie. En géographie, on s'achemine vers ce qu'on appelle une géographie que l'on appelle sociétale et globale. Ce sont les termes voulus par l'UNESCO. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la géographie, le jugement que vous portez sur une région en géographie, là encore, elle n'est que ce que l'homme en fait. C'est-à-dire qu'on ne vous fera plus étudier. Autrefois, on vous étudiait par exemple la plaine rhénane, parce que la plaine rhénane est comme ça. Il y a un fleuve, le Rhin, qui passe au milieu, qui a établi une zone, qui a une agriculture commune et qui permet certaines industries communes. Maintenant, on ne parle plus de tout ça. On se met à parler de nœuds de communication, de pôles de construction, de réseaux de relations. Donc, on va vous étudier dans le même chapitre, à la fois la sidérurgie dans la plaine rhénane, la sidérurgie lorraine, ou celle qui est dans les plaines de chez vous, et puis après ça, brusquement, on va vous traiter de la montagne, et comment la montagne permet de fabriquer l'hydroélectricité, et dans le même chapitre, vous verrez l'Himalaya, les Alpes et les Pyrénées, et ainsi de suite. Parce que, alors, tout ça pour empêcher qu'il se fasse un jugement, et un jugement qui se fonde sur le réel, tout n'est qu'association. C'est l'associationnisme, en fait, qui remplace le jugement. Ce qui sert, ce qui est important, c'est en fait la manière dont l'homme vit la relation à la société. Et vous remarquerez que ça commence très tôt, parce que quand on fait de la méthode globale pour apprendre à lire, c'est exactement cette méthode-là. La méthode globale, c'est de l'associationnisme. Au lieu de faire raisonner, là encore, on est dans la manœuvre, quand on fait be à bas, on fait un genre d'abstraction. On lui fait abstraire à l'enfant un genre de syllabe et on fait rejoindre par une forme de jugement la syllabe be et la syllabe a. Et il associe par une forme de jugement les syllabes qui sont pour toujours be et a. Tandis que, à partir du moment où on lui donne des flashs et qu'on lui donne l'impression qu'un mouvement de l'être permet d'entendre une sonorité globale qui parfois peut être différente, vous écrivez tous le mot « chercher ». Chercher, ça s'écrit deux fois de la même façon. Ça pourrait être chez cher, vous pourriez le dire de la façon inverse, ça s'écrit de la même façon. Donc, si vous partez sur une méthode globale, l'enfant n'a plus de principe pour juger, il n'a plus un système de raisonnement et de jugement. Parce que si on dit chercher, c'est que ça correspond à des règles qui s'enchaînent, et qui sont des règles qui sont communes, qui sont toujours les mêmes. Or, on lui a détruit ces règles, donc en fait, l'enfant fait au hasard, il ne fait plus de jugement, il fait des associations. Il est déjà prêt pour être un consommateur de la fin du XXe siècle et du futur XXIe siècle. C'est le même système qui est utilisé en sciences nat, où maintenant, en sciences naturelles, on fait étudier les fonctions, on ne fait plus étudier l'individu. Alors vous savez, c'est très intéressant, quand vous avez un livre qui fait tous les systèmes respiratoires, hein, depuis celui de la carpe, qu'elle soit frite ou pas, en passant par celui de la vache et celui de la poule, puis après ça, vous voyez le système digestif. Bon, alors après ça, vous pouvez mettre un enfant devant une vache, évidemment, il est assez perplexe. Et on comprend pourquoi, en France, on pallie à la chose en créant des... On fait énormément de voyages culturels, parce que là aussi, derrière, il y a des histoires d'argent dans tout ça. Alors, en France, tous les ans, je ne sais pas comment on fait en Belgique, mais il y a des voyages organisés. Alors, c'est organisé par le professeur principal, qui, en principe, a le droit à une petite... Alors, s'en mettre un peu dans la poche, au passage, et on dit aux parents, toute la classe s'en va, on va voir l'Angleterre pendant 3 jours, on va faire une classe verte pendant une semaine, et ça coûtera 2000 francs. Puis les parents qui ne peuvent pas, mais il faut qu'ils y arrivent. À 2000 francs français, donc je ne sais pas ce que ça fait chez vous. Et à partir de ce moment-là, c'est quand même assez lourd, même pour les familles les plus pauvres. Et alors là, on part une semaine, on va étudier la vache, mais dans une prairie pour voir à quoi ça ressemble. Évidemment, parce que dans les livres, ce n'était pas du tout comme ça que ça se passait. Mais c'est normal, on ne leur a pas appris à juger. Alors, il faut bien qu'on remplace par quelques petites choses. Et il est bien évident que dans ce système-là, la troisième opération de l'esprit, le raisonnement, l'enchaînement des jugements, devient un véritable désastre. Et on n'est plus capable d'enchaîner des raisonnements précis. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on ne vise pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non pas on ne vise pas le savoir, on vise ce qu'il faut faire. On apprend à l'enfant comment il faut qu'il réagisse. On lui apprend à réagir correctement. Mais on ne demande pas du tout à ce qu'il sache raisonner. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il ait des réflexes immédiat et non pas des raisonnements. Le raisonnement que je vous ai fait tout à l'heure sur mon brave boy scout qui avait accusé son professeur, ça exigeait un raisonnement, ça exigeait de connaître l'essence du communisme, l'essence du nazisme, et de faire une comparaison entre les deux, et de déduire par raisonnement que le professeur qui faisait à l'affirmation était à la fois des deux clans. Mais il fallait être capable de raisonner. On ne demande plus du tout ça à un enfant actuellement. On lui dit un mot, tilt, et il réagit. Il faut qu'il réagisse absolument comme on le lui demande, de façon épidermique. Il y a des mots tabous, des mots permis, puis c'est tout ce qu'on lui demande. On ne veut pas aller au-delà. Et c'est pour cela qu'il existe dans tous les livres, maintenant, là aussi c'est pris en main par l'UNESCO, des grands thèmes, que l'on appelle en France des thèmes transversaux, qui doivent se retrouver dans tous les enseignements. Ces grands thèmes, c'est l'écologie, le racisme, les masses médias et la communication, et ainsi de suite, on pourrait les multiplier, l'environnement, vous avez une foule de thèmes. Et pourquoi ces thèmes? Il faut créer le citoyen du monde moderne. Nous allons voir que ce sont les directives explicites qui ont été données. S'il faut créer ce citoyen, il faut que ces thèmes se retrouvent partout. Et donc, on va essayer de les faire retrouver à travers les cours de français, les cours de géographie, mais les cours d'histoire. On essaiera de les faire retrouver dans le comportement de sport. On essaiera de le faire retrouver dans la biologie. On essaiera de le faire retrouver dans les sciences physiques. Ce qu'il faut, c'est que ces thèmes essaient d'être abordés le plus de fois possible. Nous avons des directives explicites de l'éducation nationale le demandant. Et bien sûr, le thème sacré par-dessous tout, parce que ça, c'est véritablement le décalogue, les fameux droits de l'homme. Ça, les droits de l'homme, il faut absolument qu'ils soient partout. Et que la dignité humaine, le droit de l'homme, il faut absolument qu'il trouve sa place d'honneur. Je vous prends un exemple excessivement pervers et qui, pour vous montrer que quelquefois, quand on n'est pas un technicien du métier, il y a des choses qui peuvent échapper, qui peuvent vous échapper à vous, parents. Nous avons eu, il y a de ça 6 ans, dans la dernière des classes chez nous, celle avant le baccalauréat, celle qu'on aborde à 16 ou 17 ans, une réforme de la biologie. Nous introduisons un programme extraordinaire par le fait qu'il était très complet, très beau. On peut voir des foules de choses extraordinaires. Un programme de génétique très poussé, à peu près 100 pages. Un programme faisant étudier tout le système d'immunologie, au moins 100 pages, de manière très biochimique, un sujet passionnant. Un programme sur un système de régulation, les hormones, passionnant aussi pour un élève scientifique qui arrive à la fin de ses études. Et puis, un peu moins dans le même domaine, un immense programme sur la tectonique des plaques, c'est-à-dire le déplacement des grandes plaques intercontinentales et donc les grands mouvements sismiques de la planète. En fait, c'est un programme passionnant. Je vous promets qu'en prenant un livre avec un professeur très sérieux, d'abord il faut 4 ans pour étudier ça, et je pense que c'est extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire, on doit pouvoir acquérir une culture merveilleuse. Alors comme c'est impossible de faire ça en une année, même avec 5 heures ou 4 heures par semaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on voit les résumés, puis on voit les programmes, les examens qui sont donnés en passant le baccalauréat. La génétique, ça sert à quoi? Juste, il faut que d'urgence, on prouve l'égalité des races. L'immunologie, ça sert à quoi? Il faut que d'urgence, on explique comment lutter contre le sida. Le système de régulation des hormones, c'est très simple, c'est pour apprendre tous les moyens de régulation des naissances, pour que surtout les gens n'aient pas envie d'avoir d'enfants. Et enfin, la tectonique des plaques, elle vise à une chose avant tout, c'est à prouver que toute la Terre est le fruit d'une évolution, et qu'il n'y a jamais eu besoin ni d'intervention de créateur ni rien, mais que tout est le fruit d'un hasard qui s'est très bien passé tout seul. Voilà ce qu'on apprend d'urgence. Et comme le programme est trop lourd, les seules questions qui sont posées sont des questions de citoyenneté, de droits de l'homme, de politiquement correct. Ce qu'il faut, c'est être dans la pensée mondiale. Donc, quelqu'un qui n'est pas averti, qui ne sait pas ce que c'est que de diriger une école, qui ne sait pas ce que c'est que de faire travailler des élèves, qui ne sait pas ce que c'est que de leur faire apprendre un livre aussi épais pendant une année, et qui ne voit pas comment se passent les examens, il n'y verra pas de malice. Mais il y a une énorme malice. On est en plein dans le système. Alors, je ne connais pas assez bien, là évidemment, je vous prie de m'excuser, je vous parle en professionnel français, je ne connais pas assez votre système pour vous donner des exemples chez vous, mais il y en a nécessairement, et il y en a qui viendront. Parce que toutes ces techniques finissent par être utilisées partout, comme des moyens subtils pour que des parents non avertis ne voient pas de malice à l'éducation qui est donnée à leurs enfants. Alors vous comprenez très bien que quand je vois des parents qui viennent agresser nos pauvres écoles traditionnelles en nous demandant « mais ce qui est important, c'est quels sont vos résultats au bac ?» D'abord, c'est 100%. Donc, en fait, on ne peut rien nous dire. Mais malgré ça, ils disent « vous savez, vous n'êtes pas des grandes écoles, ce n'est pas très connu, il y a des très vieilles écoles françaises et tout. » Mais c'est à pleurer de désespoir. C'est à pleurer de désespoir d'imaginer qu'on les a trompés à ce point-là, ces parents, qu'ils vont avoir un enfant bachelier avec peut-être le meilleur des bacs, avec peut-être une note supérieure et une mention, sorti d'une école à très grand renom, et qu'ils vont lui avoir donné, pendant 12 ans de sa carrière, une atrophie mentale pareille. Et que les parents ne sont pas au courant, qu'ils ne le voient pas, qu'ils n'y voient pas de malice, et qu'ils viennent nous chercher des poux dans la tête en nous disant « vous n'êtes pas des grandes écoles, vous n'êtes pas très connus, etc. » Mais il faut savoir, il faut regarder les programmes, il faut regarder ce qu'il y a dans les livres des enfants, il faut regarder comment travaille leur intelligence et comment elle travaille à l'école. Il faut se demander si on est conforme au réel. Est-ce que véritablement on leur apprend à raisonner? Alors je voudrais conclure en vous disant, parce qu'il se pose une question très importante, dans quel but tout cela? Parce que ça n'est pas le fruit du hasard. C'est trop fort, c'est trop méthodique, c'est trop universel. Et en plus, ça n'a que des inconvénients. C'est très cher à mettre au point, ça fait des enfants qui sont mal dans leur peau, ça fait des révolutions à l'intérieur des lycées. Et par-dessus le marché, ça fait des gens qui sont inaptes professionnellement. En plus, on s'efforce, parce que le but de l'éducation nationale, c'est d'endoctriner, on s'efforce d'augmenter le temps passé à l'école. Maintenant, dans la très grande majorité des familles, les enfants sont à l'école à 2 ans. Et chez nous, ils n'en sortent rarement avant 18 ans. On est dans un monde de fous. Et à 18 ans seulement, on commence à parler de préparer un métier. Mais où va-t-on? Et il faut que toute la population fasse ça. Quand vous imaginez qu'en 1975, me semble-t-il, nous avions en France toute une frange qu'on appelait la frange professionnelle, qui était détenue non pas par l'éducation nationale, mais qui était détenue par ce qu'on appelle chez nous les chambres de commerce, c'est-à-dire des groupements des professionnels. Si vous étiez, vous, horloger, vous aviez une chambre des horlogers, qui décidaient de ce qu'il fallait apprendre aux futurs horlogers, qui formaient les écoles d'horlogers, qui donnaient de l'argent pour former les horlogers, et quand les horlogers sortaient de là, ils savaient faire marcher une horloge. C'est quand même très intéressant. Eh bien, quand vous pensez qu'en 1900, je vous dis 60, je suis plus sûr de la date, l'éducation nationale, par un décret, a volé tous les apprentissages français. Ça n'est plus du tout tenu par les chambres des métiers, ça n'est plus tenu par les chambres de commerce, c'est tenu par l'éducation nationale. Parce qu'il fallait que même les futurs maçons, même les futurs horlogers, même les futurs cordonniers, même les futurs ingénieurs en électronique, il fallait que tout le monde soit dans les griffes du monstre et apprenne la citoyenneté et les droits de l'homme. C'est pas fait au hasard. Alors dans quel but? Si vous prenez des visionnaires comme Orwell ou Huxley dans leurs ouvrages Le meilleur de monde ou 1984, il nous parlait déjà de cet asservissement des peuples. Et il est plus important pour asservir un peuple de lui retirer l'intelligence du combat que de lui interdire de parler. Or moi, je voudrais vous tirer la sonnette d'alarme en vous disant alerte, parce que de nos jeunes générations, il ne sortira pas de contre-révolutionnaire. Si vous lisez en détail l'histoire du XIXe siècle, qui est un combat de géants, de la révolution et de la contre-révolution, nous avons eu, nous, en France, un pôle, et vous avez eu aussi des universités, l'université de Louvain en particulier, qui a bien agi au début de ce siècle. Vous avez eu des très grands noms. Je pense à votre cardinal Mercier, qui a tenu une place extraordinaire. Chez nous, nous avons eu Louis Veuillot, nous avons eu le cardinal Pi, nous avons eu Charles Maurras. Nous avons eu des esprits, dont Guéranger, nous avons eu des esprits fabuleux. Ces gens-là, avec leur intelligence, en écoutant parler leurs ennemis, étaient capables de vous dire ce que vous nous dites là est faux pour telle, telle, telle raison. Et moi je vous dis, tous nos petits-enfants issus de notre milieu traditionnel, s'ils sont formés dans ces écoles, il n'y aura jamais chez eux un cardinal Mercier, il n'y aura jamais un cardinal Pi, il n'y aura jamais de Louis Veuillot, il n'y aura jamais de Charles Maurras, parce que leur intelligence en est incapable. Une intelligence, ça se forme entre l'âge 0 et l'âge 18 ans. Après, on replâtre, mais on ne réforme pas. Et si on a fait ça, si nos révolutionnaires ont fait ça, c'est bien pour nous supprimer l'intelligence du combat. Ah, peut-être qu'on aura des enfants pieux, mais on n'aura pas des enfants capables de lutter contre la révolution. Et ça ne suffit pas d'avoir des enfants pieux. Parce que leur ruse satanique, c'est non seulement de s'attaquer à la surnature, mais c'est de supprimer la nature. Et croyez-moi, nous ne sommes pas des Kantiens, je ne vais pas vous expliquer Kant maintenant, mais nous ne prions pas notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne suivons pas les 10 commandements, simplement parce que c'est obligatoire, parce que notre Père nous l'a dit, notre grand-père nous l'a dit, et que le pape nous l'a rappelé. Ça n'a jamais enthousiasmé personne. Ce n'est pas intéressant de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, parce que c'est obligatoire. Si nous le faisons, c'est parce que nous avons derrière nous une foi qui est appuyée sur une intelligence. Et cette intelligence, elle nous aide à comprendre ce qu'est Dieu, ce qu'est sa Trinité, ce qu'est la nature de Jésus-Christ. Le mot de nature, c'est un mot de philosophie. Ce qu'est la nature de l'Eucharistie, la substance de l'Eucharistie, c'est un mot de philosophie. Si vos enfants sont incapables, s'ils sont étanches, s'ils sont imperméables à ces choses-là, mais vous n'en ferez que de médiocres chrétiens, et dans deux générations, il n'y aura plus de chrétiens dans vos familles. C'est ça la ruse satanique. Quelque chose de très grave. Il faut donc supprimer, dans l'idée des révolutionnaires, la structure normale de la pensée, créer des affectifs primaires. Il faut combler le vide par les droits de l'homme et ses thèmes, la démocratie, le progrès, l'avenir meilleur, l'humanisme, le libéralisme. Il faut éviter les écarts des rebelles. Je vous cite ce que disait, ça c'est les termes de l'UNESCO, l'un des objectifs et de neutraliser la transmission, là ce que je vous disais sur les familles, les élites, l'un des objectifs est de neutraliser la transmission familiale des préjugés. Qu'est-ce qu'on appelle les préjugés? C'est votre patrimoine de famille et de nation, ce que vous avez reçu de vos parents qui fait votre culture et votre pays. Voilà ce qu'on appelle les préjugés, neutraliser la transmission familiale des préjugés. Ailleurs, l'UNESCO qui dit, il faut assurer l'internationalisation, la standardisation de l'enseignement, car tant qu'une génération n'aura pas reçu les enseignements d'un curriculum international standard, tous résonneront encore avec les vieux cadres mentaux, sont fatales à l'humanité. Vu qu'un manteau, c'est votre foi, c'est votre patrie, c'est l'amour de votre patrie, c'est votre culture. C'est ce cadre manteau fatal à l'humanité, voilà ce que je déteste, l'UNESCO. Vous citerez aussi le Conseil de l'Europe qui dit « L'éducation est souhaitable pour éduquer à une société multiculturelle. L'approche interculturelle, ça c'est l'OCDE qui dit ça, vise à un objectif ambitieux, l'information d'une identité culturelle nouvelle, ouverte, qui ne soit plus marquée par l'eurocentrisme, l'ethnocentrisme, c'est-à-dire en fait l'amour de votre pays, hein, ou par un attachement aveugle à ses propres croyances et aux valeurs. Voilà ce qui est demandé aux échelons internationaux. Donc de toute façon, ça frappe déjà chez vous, et ça frappera encore plus fort chez vous. C'est une marche qui avancera. Donc il s'agit d'une manipulation. Et vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, dans les ouvrages, il est très facile de rajouter la haine de l'Église, la haine de la morale, l'avilissement moral, puisque il n'y a plus rien qui structure le patrimoine que l'on a reçu. Et c'est quelquefois très très étrange, très curieux, très subtil. J'ai découvert régulièrement, je m'amuse à parcourir ne serait-ce que les livres de grammaire. De temps en temps, il paraît un vieux livre de grammaire avec des exercices. Bien sûr, vous n'avez jamais eu l'idée de lire tous les exercices. Et brusquement, au milieu des exercices, il y a un exercice qui est fait avec un mot à remplacer, un verbe à conjuguer, qui est une injure contre Jésus-Christ, contre l'Église. Elle est signée Voltaire, elle est signée Renan. Elle est là au milieu. Vous en avez un autre qui est un truc pas tout à fait obscène, mais presque. Vous avez une troisième qui est une genre d'incantation luciférienne, au milieu, comme ça. Et puis vous y voyez rien. Vous avez un ouvrage qui est très très gentil, il n'y a rien dedans. C'est fait exprès. C'est distillé. Pourquoi ? Et alors on arrive à introduire ces choses-là. Je vous raconterai encore un épisode qui m'est arrivé réellement. Je me souviens d'avoir été reçu, il y a de ça une dizaine d'années, dans une famille tout à fait faisant partie de la vieille aristocratie française, de ces familles au patrimoine culturel sérieux et tout. Les trois aînés étaient trois garçons. Le père n'avait jamais eu le courage de les mettre dans une école comme nous les faisons, nous. Il jugeait que c'était pas aussi grave que ça. Et moi, je tenais des propos comme ceux que je viens de vous tenir en disant « Madame, monsieur, vos enfants finiront par cracher sur ce que vous adorez. » Je suis sûr, par exemple, qu'ils n'aiment pas l'Église, qu'ils sont persuadés que l'Église, ça n'est que l'affaire Galilée, le persécuter des Indiens en Amérique, que des choses qui sont racontées n'importe comment. Et j'étais en train de dire ça allègrement, tranquillement, dans le fauteuil avec un verre de whisky, quand arrive l'aîné, qui était, il va avoir dans les 16 ans. Et je lui dis, je commence à lui dire, oui, je dis à ta maman qu'on ne vous apprend même pas à aimer l'Église dans votre école. Oui, mais l'Église, il ne faut pas exagérer, parce que quand même, etc. Et il est parti, il n'avait pas entendu ce qui précédait, et une montée en charge contre l'Église catholique. Sa mère a été atterrée, on a parlé d'autre chose. Arrive le second fils, et souriant, je refais la même expérience. Et aussitôt le fils, oui, l'Église, on m'a appris que, etc. D'ailleurs, bon, et c'est parti avec le second fils. Troisième fils, troisième expérience. Bon, on a vu Louis-Ski, on est passé à table, on a parlé d'autre chose, c'était terminé pour la soirée. Mais c'était la démonstration. Les enfants, 16 ans, 15 ans, 14 ans. Une famille aristocratique française, une famille à très fort patrimoine, la mère de famille qui m'aidait dans tous mes catéchismes, dans tout ce que je faisais. Donc de ces gens qui se démenaient pour la tradition, et des enfants qui crachaient sur l'Église. Ça, c'est le fruit de cette éducation-là. Alors, c'est normal, parce que, je dirais, tout est fait pour que ça passe facilement, puisqu'il n'y a plus la capacité de raisonner. En fin de compte, si vous me permettez l'image, peut-être audacieuse, en somme, ce que l'on cherche à inoculer à la population, c'est un sida intellectuel. C'est-à-dire une incapacité d'engendrer par nous-mêmes des anticorps. C'est d'être un perpétuel malade qui n'ait plus le moyen de se défendre contre sa maladie. Voilà ce que l'on fait de nous. Voilà ce que l'on veut faire de nous. Alors vous allez me dire que je suis bien sinistre, que c'est très triste, que la situation est dramatique. Eh bien oui, la situation est dramatique. Et je vous dirais que c'est parce qu'elle est dramatique que moi j'ai la foi dans ce que je fais, que M. l'abbé Lorbert a la foi dans ce qu'il fait, et que j'espère bien qu'après m'avoir entendu, vous avez la foi dans ce que vous faites. Parce que vous avez bien compris que le dilemme n'est plus entre de savoir si un élève est bon ou mauvais. Le dilemme n'est pas d'essayer de chicaner sur une école pour savoir si elle a vraiment un excellent niveau. Nous essayons de notre mieux, je vous l'ai dit, je le faisais moi-même, M. l'abbé Lorbert le fait certainement, d'avoir des écoles qui sont au bon niveau. Nous voulons que vos enfants aient une bonne place dans la société, qu'ils aient un métier. Mais nous voulons en même temps qu'ils aient les fondements naturels pour pour pouvoir être des êtres imprégnés du surnaturel. Et nous y croyons. Et nous savons que si la nature est atteinte dans son fonctionnement, si la porte de l'être est fermée, si l'intelligence de l'enfant n'a plus l'accès à l'essence de l'être, à l'essence de la vérité, alors c'est la barbarie sanglante. Je peux vous garantir que nous commençons à l'avoir à nos portes. Nous commençons à voir traîner, moi je suis à Paris, nous commençons à voir traîner dans notre capitale de ces hordes de jeunes, et pas seulement d'étrangers, de Français, qui ne savent plus ce qu'ils font, qui n'ont de la haine que pour de la haine. Moi, je connais des gens qui se sont fait abîmer leur voiture devant une porte de cinéma. On ne leur a rien volé pour le plaisir d'abîmer une voiture. Après en avoir déjà abîmé 100 dans la même rue, on a vu des gens commencer à se faire esquinter, abîmer, mutiler, pour le plaisir de les mutiler. On voit de ces jeunes qui sont hagards. L'autre jour, je quittais Montmartre après le pèlerinage qui nous conduisait de Chartres à Montmartre. Et nous avions devant nous, là j'avais une terrasse de café, qui n'était faite que de Français, de vrais Français, de chez nous. D'erreur. Il n'y en avait pas deux qui avaient les cheveux de la même couleur. Des regards, mais à vous faire frémir. C'était des visions positives de l'enfer. Des types, on les aurait vus, et normalement avec, je pense qu'il devait encore y avoir la trace de toutes leurs piqûres d'héroïne dans leurs bras. Mais affligeant. Mais il y en avait un plein boulevard. Parce que c'est la zone, évidemment, de ce côté-là, à Montmartre, entre les Halles et Montmartre, c'est merveilleux. Mais il y a maintenant... Autrefois, c'était cantonné ici. Maintenant, il y en a dans toutes les banlieues parisiennes. Eh bien, c'est de la barbarie. Quand vous voyez Attila et les uns qui venaient et qui tuaient pour le plaisir de tuer, mais j'ai le malheur de vous dire, nous y arrivons. Et vous ne vous serez embêtés dans vos maisons même, pas seulement par des gens qui vous voleront, mais par des gens qui répandront la barbarie et la haine pour le plaisir de la répandre. Parce qu'ils ne sont plus chrétiens. Mais parce que nous n'avons plus moyen d'en faire des chrétiens. Parce qu'ils ne sont plus capables de penser, ils ne sont plus capables d'admirer, ils ne sont plus capables d'aimer. Ils ne sont plus capables de s'arrêter devant la beauté d'une symphonie, d'admirer le porche d'une cathédrale, de tomber d'admiration devant la beauté d'un ostensoir, ou de lire avec plaisir des vers de Jean Racine. Ils sont complètement hermétiques, fermés. Parce qu'ils ne sont plus capables du beau, parce qu'ils ne sont plus capables du vrai, et par conséquent, ils ne sont plus capables du bien. Ce sont des barbares sauvages. Et cette série de barbares arrive chez nous, elle déferle et elle avance. Et il n'existe qu'un seul moyen de lutter contre la barbarie, c'est la grâce. Et c'est de préparer le terrain de la grâce. C'est-à-dire, en fin de compte, de structurer la nature, de structurer les hommes de demain, de former leur intelligence et de leur donner la foi. Eh bien oui, je vous dis, moi je crois dans le combat que nous menons, c'est nous qui avons le seul, le vrai combat, le seul qui en vaille la peine et le seul qui aura la victoire. Oh, nous aurons peut-être bien les larmes, nous aurons bien des amertumes, mais nous n'avons pas le droit d'abandonner ce poste. Nous sommes un tout petit nombre. Eh bien, si par hasard nous abandonnions ce combat, au jugement dernier, notre Seigneur nous dira « Pourquoi n'étiez-vous pas sur le terrain quand il fallait se battre ?» Alors, je vous le dis, tenez ce créneau, croyez-y, formez les intelligences de vos enfants avec les moyens qu'il faut, et par-dessus, eh bien, vous verrez qu'à ce moment-là, jaillira la plénitude de la grâce, la plénitude de la foi, l'amour de la vérité et l'amour de ce qui est bon. Voilà le message que je voulais vous laisser ce soir.